Donc, pareil, comme un aspect de transition, comme un aspect de sextile, comme un aspect de conjonction. Avec ce cap, comme ça, vous prenez vos dates. Vous faites, et alors, vous avez le battement, la pulsation de cet instrument dans votre orchestre. Alors, cet instrument-là, vous le connaîtrez bien si vous le faites comme ça, mais vous ne le connaîtrez que si vous le faites comme ça. Et alors, prenez la même chose pour les autres aspects. Puis alors, au moment où les aspects ont fait, c'est très simple avec l'éphéméride. Vous avez l'éphéméride de 50 ans avec vous. Bien sûr, l'éphéméride de 50, 60 ans, il est très facile de repérer le transit Saturne. Maintenant, 29 ans, il a fait le tour. Et puis, et c'est vrai pour tous les arts, naturellement. Ne pas perdre du temps là-dessus. Et puis, après ça, alors vous prenez, mettez les dates sur cette feuille, dans une liste. Puis faites la même chose sur un autre carré dans votre pays. Un troisième, s'il y en a. Et puis prenez la même chose dans une opposition. Faites 4-5 pages de graphique de dislocation du texte. Mettez les dates des aspects. Et ensuite, vous avez toutes les dates des concordances d'aspects. Tel aspect de Saturne, carré la Vénus par l'autre côté, qui est un aspect énorme, ça. Venant à un moment donné où vous avez, comment dirais-je, la Lune progressée, ou le Jupiter arrivant à la Lune, par exemple, en transit, n'est-ce pas? Surtout le Jupiter à la Lune, parce qu'on ne parle pas ici des progressions secondaires. Eh bien, ça aura là une compensation à l'autre. Mais vous verrez les dates. Et ainsi, il faut apprendre le battement de chaque organe de votre nature séparément. Et ensuite, vous n'en aurez le battement qu'à l'une. Voilà comment il faut procéder. Ce n'est pas la mer à boire, c'est rien de magique, c'est rien de mystérieux. Il n'y a aucun besoin de clairvoyance pour faire ça. Il y a besoin simplement d'avoir le goût de la conspiration intellectuelle. Simplement ça. Simplement le goût de passer une soirée tranquillement ou un dimanche après-midi, plutôt que de faire du crossword puzzle, de prendre ceci avec l'éphéméride, c'est la chose la plus excitante qui soit. C'est la chose la plus excitante qui soit. Et c'est précisément cette question de quadrature que je fais un peu comme ça, ici, qui réussit admirablement. Et habituez-vous, quand vous avez dans votre thème un aspect de carré de deux arcs, de vous imaginer comment ça serait si c'était dans deux maisons différentes, puis dans deux autres maisons différentes, et ainsi de suite. Et vous finirez par comprendre la loi qui est derrière cette particulière combinaison d'arcs. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc il y aura encore demain, vendredi et lundi, les études de quadrature et de Dieu sait quoi, par surcroît. Là, c'est la boîte à surprise. Et maintenant, passons à ce soir. Hélas, on va commencer de nouveau par être abstrait. Madame Audineau, je vous remercie. J'étais abstrait pour commencer la dernière fois. J'ai promis d'être concret. Je suis bien devenu ensuite. À ça, je me suis rattrapé. Ce soir, je deviendrai concret. En seconde partie. Mais il me semble que malgré tout, je dois donner le meilleur de moi-même quand je suis ici. Le meilleur de ce que je sais sur quelque chose, et surtout quand ce meilleur semble tout à coup jaillir avec une lucidité extraordinaire en moi, alors c'est que je sens qu'il y a la correspondance des temps. Et aujourd'hui, en mettant au point certains aspects de la question de la 12e maison, ou la vie secrète d'une maison, voilà que j'ai repris toute la théorie fondamentale de la 12e maison du zodiaque naturel, c'est-à-dire du poisson, par rapport au bébé. Alors j'entame ce soir sur ce sujet. L'autre jour, deux psychologues spécialisés un peu dans la vie des enfants normaux et anormaux, me confirmaient encore une fois une des choses fondamentales de l'astrologie, à savoir que l'enfant est normal, ne réussit à faire sur une feuille de papier que des lignes horizontales qui ne se coupent pas. Il fait donc des parallèles. Il fait des parallèles. Lorsqu'il est normal, il coupe les lignes et fait la croix. Il fait des coordonnées, ça lui est naturel. L'une d'elles vient de nous dire, elle est ici ce soir, nous a dit dans le cours justement avant-hier que l'enfant normal à l'âge de 3 ans fait la croix, c'est-à-dire il découvre l'autre, Il arrête le flux indéfini de cette énergie qui coule indéfiniment sans rime ni raison, qui court sans rime exactement et sans raison. Elle est arrêtée par la considération de l'autre, l'alter ego. Et c'est le principe de la croix qui s'institue. À 4 ans, l'enfant normal fait le carré. Or, nous avons une base de soi. Nous avons, quand on étudie les origines, la genèse de l'intelligence humaine, forcé d'aller la chercher dans l'intelligence animale. Comprendre l'intelligence animale, c'est mieux comprendre l'intelligence tout court. Et tout ce qu'il faut pour qu'elle existe dans l'homme. Et il y a des schémas pour ça, heureusement. Il y a toujours une géométrie pour toutes ces choses qui rend ça intelligible à notre conscience, à notre œil. Or, l'idée de la parallèle horizontale, l'idée d'innombrables parallèles horizontales, est une idée fondamentale dans l'analyse de la psyché, dans la théorie. De la voix. Dans les quatre, nous avons quatre parallèles horizontales. Comment il y aura pour représenter, pour ce que ça signifie, il y aura naturellement plusieurs noms et je ne vais pas entrer là-dedans du tout. Je veux simplement rappeler que d'une part, ça peut représenter l'inconscient tout simplement, puisque la croix représente la prise de conscience, et que la prise de conscience, c'est donc la conscience, la genèse de la conscience, la croix est la genèse vraiment de la conscience de soi, que la parallèle ne représente pas. Ce sera la verticale, la perpendiculaire à la parallèle qui nous représentera la prise de conscience tour à tour de chacune de ces horizontales. D'autre part, nous devons considérer que les parallèles sont des formes, expriment aussi une énergie. Elles sont aussi un élément d'énergie énergétique. Et que ça signifie quelque chose si on prend sa main, si vous voulez, ou on se prend dans une de ces parallèles ou si on la touche. Ça, cette idée va très très loin. Parce que si vous prenez une verticale qui va jusque-là, puis qu'il continue son chemin jusque-là, puis qu'il continue, vous avez là, coupé en deux, la parallèle, les parallèles, et vous avez créé une situation révolutionnaire. Or, déjà là, vous avez le principe de Saturne, qui est toujours la perpendiculaire à l'horizontale. Déjà là, vous avez tout le principe du carré, et déjà là, vous avez tout le secret de l'effort pour représenter le carré. Parce que la planète qui est en carré à ceci est nécessairement horizontale par rapport à ceci, et tend à rester horizontale et à filer sur la ligne énergétique de l'horizontale, donc elle est tangentielle au centre de la verticale. Tout le monde comprend ça. Tout le temps, nous avons cette espèce de lutte, cet effort créateur, que fait une verticale s'accrochant, s'insérant dans une horizontale. Et plus elle en prend en main, plus elle en prend dans sa broche, elle était virée sur elle-même, car il faut que la verticale soit maître de l'horizontale. On peut dire en deux mots que la démence commence lorsqu'une verticale ayant touché une horizontale se trouve moins forte que l'horizontale et est emportée dans son courant. Ça se traduit astrologiquement par une lune beaucoup plus puissante que les forces solaires. Alors, c'est la lune qui fait le dégât, mais tout simplement parce qu'il ne fallait pas la toucher. On a voulu toucher l'énergie beaucoup trop forte, on n'a pas su la manier. Alors, on est entraîné par elle. Comme un courant dans lequel un homme, ne sachant pas nager, s'est laissé tomber ou a voulu tomber.
Maintenant,
cette horizontale, ça dit encore beaucoup d'autres choses. Il n'y aurait pas de verticale s'il n'y avait pas d'horizontale. Il n'y en aurait pas. Mais, comme dit la Bible, et l'esprit se mouvait sur la surface par les eaux. Et l'esprit, c'est la lumière de la vie. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, c'était ce verbe qui était la verticale. Car le verbe divin ne peut avoir comme objet que les parallèles horizontaux. Il n'en a pas d'autre. Car son action, son départ et sa manifestation, c'est d'être le départ du sommet vertical descendant jusqu'en bas, le plus loin possible, jusqu'à la dernière des parallèles horizontales. Ce qui correspond de nouveau à l'idée de l'Écriture, que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire celui qui était en lui-même le principe et la force même de la verticalité, de la perpendiculaire, est allé jusqu'aux enfers, c'est-à-dire il est allé jusqu'à la dernière des parallèles, c'est-à-dire jusqu'au fond de l'inconscient. Et au fond de l'inconscient, il a attrapé la dernière des parallèles et qu'il a réussi le premier mouvement de sa conversion en verticalité. Qu'est-ce que nous avons dans la vie si on, ceci, tout ça est très abstrait pour beaucoup de gens, j'espère que non. Mais vous allez voir que si vous pouvez suivre, et j'espère que moi, je suis capable de vous donner exactement comme je l'ai revécu depuis 24 heures avec une intensité incroyable, les choses que j'ai vécues depuis des années, bien entendu, et sans lesquelles on ne comprend pas la forêt. Intelligiblement pas. Cette horizontale, on peut dire qu'elle est au départ. Cette horizontale, c'est grosso modo la plus grande part du programme de nos incarnations, de notre existence terrestre. Dans notre existence terrestre s'offre à nous toute une flotte, on peut le dire, des couches de parallèles horizontaux. Et il s'agit de les embrocher les unes après les autres, avec cette puissance de la perpendiculaire qui est donc celle de l'axe, et celle qui est du pont, et celle qui est du centre de la croix, et celle donc qui vient de plus haut, et avec cette force qu'on appellera alors, lorsqu'elle sait faire, une force de caractère dans la vie. Car avoir le caractère, c'est tout simplement vouloir descendre une verticale, et une fois qu'on tient une parallèle horizontale, on la lâche plus. On la convertit. Si on la lâche, et qu'on laisse le poisson retomber dans l'eau, et bien on est en délibère. Tout le jeu du caractère, tous les jeux imaginaires, tout le jeu des maisons se trouve ici. Alors, d'abord les parallèles horizontales, puis vient la première verticale. C'est le début de ce qu'on peut appeler la vraie manifestation, la prise de conscience, la première morphologie, la première forme, car il n'y a de forme, il n'y a aucune forme avec les formes parallèles horizontales. Il n'y en a pas. Et les parallèles horizontales, ça a un autre nom, ça s'appelle le multiple et la multiplicité. On peut les compter. Pour chacune d'elles, une verticale. Bon. Puis une autre verticale. Puis une autre verticale. Puis une autre verticale. Puis une autre verticale. La verticale descend. Ça, c'est le point. C'est le centre qui émerge du monde. C'est l'énergie primordiale qui émerge maintenant et qui monte et qui s'affirme à travers les eaux des parallèles horizontales et qui va maintenant les convertir en des verticales. En des verticales. Et justement, il n'y aura la conversion totale que lorsqu'il n'y a plus d'horizontale et que tout est vertical. On aurait donc exalté la signification et l'utilité de toutes les horizontales. Si vous voyez ça bien, vous voyez que vous faites une tapisserie. Et c'est tout le symbolisme de la tapisserie en effet. Si vous voyez ça encore mieux, vous remplissez, finalement, vous en mettez tellement de verticales que vous remplissez ça complètement, il n'y a plus alors une seule horizontale visible ou vécue. Il n'y en a plus une seule visible ou vécue. Et alors, ce que vous avez, c'est le 1. C'est l'unité. Vous avez l'unité. Or, cette fameuse unité, qui est le 1 maintenant, il n'y a plus qu'un, il y avait plusieurs verticales. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas encore atteint et converti toutes les horizontales. Mais lorsque toutes sont atteintes, il n'y a plus qu'une verticale, qui alors, elle, prend tout, occupe tout le temps. À ce moment-là, je dirais le temps, mais plus l'espace, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'espace. Car l'espace n'existe que dans la mesure où il existe encore des parallèles horizontaux. Et tout le problème du temps et de l'espace est là. Je vous en ferai une démonstration encore dans un instant, avec la façon misérable que j'ai de dessiner. Donc ici, vous avez le 1. Et là, vous aviez le multiple. Le multiple, ça va comme ça. Le 1, ça va comme ça. Donc, vous avez le dualisme de l'horizontale avec la verticale. Et dans ce dualisme, l'un des deux doit gagner. Et le vainqueur, c'est la verticale. C'est dans ce sens qu'on dit Dieu sera toujours le maître du temps et de la situation. Pour finir. C'est dans ce sens. Ainsi parle l'Éternel. Toutes les verticales, c'est toujours la voie de l'Éternel, c'est-à-dire de celui qui est opposé au changement, à ce qui coule, à l'écoulement, qui lui, en principe, est représenté par l'horizontal. Je ne vais pas chercher plus loin les origines des parallèles horizontales. Je m'en garderai bien, ce serait un sujet phénoménal. Nous allons remonter à l'origine même de tout. Je prends le phénomène sur le plan psychologique, sur le plan pratique, sur le plan expérimental, et tellement vécu intérieurement et médité dans la vie des thèmes et tout ça, qu'on peut très sûrement le transcrire en termes géométriques. Et de là, saisir ce qu'il y a de plus à saisir. Bon. Donc ici, j'ai réussi à croiser le fer, si l'on veut, à croiser les courants horizontaux. Et je l'ai fait d'une façon si serrée, qu'il n'y a plus d'espace entre ceux-ci, et qu'il n'y a plus d'espace surtout entre mes verticales. Il n'y a plus d'espace entre mes verticales. Il n'y a plus qu'une seule verticale. Une seule. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le milieu divin, le Seigneur du Chant. J'ai le Tao. Et j'ai la voie du milieu. Le fameux centre recherché. Tellement mentionné et redevenant maintenant beaucoup à la mode de toutes les philosophies de l'Orient. Le fameux unité. Et cette voie du milieu. Et ce milieu divin, Teilhard de Chardin a écrit dans son livre Le milieu divin, des pages de poésie et de mystique admirables. Et je sais que cet excellent homme, je n'exagère pas, comme j'ai lu son livre très à fond, je sais que cet excellent homme serait ce soir dans un ravissement sans nom d'avoir cette démonstration à laquelle lui n'a jamais encore pensé. Car dans son livre, je l'ai cherché. Il la sent, il est au bord, il est en marge, et puis tout à coup, il s'en écarte. Il l'évite, il ne l'a pas encore saisi. Le milieu divin, c'est le milieu divin, de toute façon, dans la croix, c'est la verticale. Mais qu'est-ce que c'est que la simple verticale? Et remarquez, c'est une verticale qui suffit parce que pour une parallèle horizontale, mais s'il y en avait une vingtaine, mais s'il y en avait une centaine d'horizontales, est-ce qu'il suffirait? Non. Donc c'est à peine un milieu divin qui commence à germer. Mais si ça devient ça, alors c'est le Tao, c'est le 1, et c'est la conversion du multiple dans l'un. Et toute notre existence n'est pas autre chose que ça. Et tout le dynamisme, il y a ce mystère au fond de nous, d'une puissance, qui a la puissance de convertir quelque chose en soi-même, en de changer ce qui est horizontal en vertical. Et c'est toute l'origine même du degré dont je parlais l'autre jour. Dont je parlais mercredi dernier. Car ici, le point, si vous l'étudiez bien, je vais venir maintenant, je supprime ce dessin, vous avez pleinement compris ce que je disais. Maintenant, si je reviens au point, ce fameux point, qui heureusement a touché beaucoup de gens, on l'a dit tout à l'heure, et qui est au centre de toute la projet, mais de toute la pensée anthropologique et l'accélération, dans toutes les grandeurs, à tous les étages. Si vous réfléchissez au point, on va le mettre ici. Il faut bien que je l'agrandisse. D'ailleurs, on a le droit de mettre un point de toutes les grandeurs imaginables. Et on va d'ailleurs l'agrandir. Nous allons l'agrandir. Et si vous mettez ce point, vous verrez en analysant, dès le moment, maintenant nous sommes dans un instant où il faut être très sensible au passage de la progression géométrique. Et ce que ça représente dans le vital de la vitalité humaine. Nous ne sortons pas de la vitalité humaine. Moi, je ne fais pas du symbolisme abstrait. Mon symbolisme ne marche avec moi. Et d'ailleurs, il germe lui-même en moi de l'expérience directe sur les êtres humains. C'est à mesure de voir sa brasse sur les êtres humains que graduellement se dresse devant moi toute la systématique géométrique de ces choses. Et je n'ai le fait que lorsque je l'ai, cette systématique géométrique. Ça me donne le point final. Alors voilà ce degré. Si vous regardez, ce n'est pas un degré, d'accord, c'est un point. Mais en réalité, pour être de cette grandeur, il a déjà été un degré. Et il est un degré en mouvement de degré encore. C'est-à-dire que il va être ceci, il va devenir ça, il va devenir ça, et simplement le cercle indique le degré d'extension dont il dispose, c'est-à-dire la puissance, le champ d'expérience dans lequel il va accrocher les horizontales, les parallèles. Ça indique le programme des horizontales qu'il va capter et convertir. Il est là pour ça. Et en les convertissant, il va naturellement s'agrandir. Et le résultat final, ce sera un degré et un point, fait par le degré, fait par la croix qui démarre le grand. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, de degré en degré. Cette verticale a capté cette horizontale. Puis elle a capté une autre, puis elle a capté une autre. Et à mesure qu'elle les captait, elle faisait grandir le sang, le karma. Qui est le point. Qui est le foyer, la source centrale de l'énergie, alors qu'elle a son origine dans l'éternel. Moi, l'éternel. C'est encore une autre histoire. Je saisir ça dans son mouvement. Parce que dans un instant, je viens à la deuxième maison astrologique. Je viens au poisson et je vais vous montrer pourquoi le poisson est ce qu'il est à cause de ça. Alors, vous voyez, peut-être que vous me direz, mais oui, je comprends très bien. Je vous suis parfaitement, vous me direz. Ceci représente bien cette un qui descend dans le multiple et qui est en capturé à force d'être un descendant dans le multiple. Il a réussi à élargir le 1 jusqu'ici, de sorte que tout ce qui est dans le 10 ici n'est plus une horizontale du tout, c'est tout de la verticale. C'est tout du vertical. Étant tout du vertical, c'est le 1. Mais c'est un 1 qui n'a que cette, qui n'occupe que ce temps ou cet espace. Pas d'autre chose. Or, moi, je suis un 1, je suis un degré. Mon thème est un degré, vous en êtes un autre, tous. Et par conséquent, il s'agit maintenant, nous travaillons tous, nous flottons et nous nageons tous dans les parallèles, avec notre degré,
Le barbeton dans nos parallèles, c'est une façon de dire le barbeton dans nos émotions qui nous tiraille. Qui nous emmène à gauche et à droite et que nous voulons arrêter et conduire. Et tout ce champ des émotions de nos parallèles, c'est exactement ce qui nous sépare encore. Et pourtant, nous nous cherchons tous. C'est la loi de la verticale. C'est que toutes les verticales se cherchent pour ne former qu'une seule unité. Alors, ma verticale est occupée à prendre mes parallèles en main et les convertir. Votre verticale prend vos parallèles en main pour les convertir. Et le résultat net pour finir, c'est quoi? Voilà le point. Le point commençant, ceci. On suppose un commencement. Le voilà. Il est là en bas. Il est là en bas. Voilà les parallèles. Et voilà les parallèles. Et voilà les parallèles. Et voilà les parallèles. Bon. Graduellement, à force de se développer, voilà l'axe, de monter, à force de se développer, cette parallèle a disparu, celle-là a disparu, est entrée dans le degré qui est devenu si grand qu'il est devenu ça. Il est ça, là. Tout en blanc. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien entre deux. C'est une seule unité totale, la conversion. Et tout le principe de la forme dans la vie vient justement de cette conversion. La parallèle toute simple, c'est l'amorphisme total. Bon, mais c'est encore un autre chapitre. Il ne faut pas que je déborde. Voyez maintenant, ça c'est moi. Ça c'est moi, en montée. Ça c'est mon petit Tao et mon chemin du milieu à moi. Mais mon chemin du milieu à moi doit être parallèle au vôtre. Et finalement, il ne doit pas être parallèle au vôtre, il doit être le même que le vôtre. Comment ça va-t-il être possible? Parce que vous, vous faites la même chose là. Vous faites la même chose là, exactement comme moi. Mais nous n'en sommes pas encore au point où il n'y a pas de l'espace entre nous qui se traduit par les parallèles horizontales. Nous nous touchons sur toutes nos horizontales et nous les rejoignons et nous les faisons jouer. Et finalement, les convertissant chacun, nous montons sur nos horizontales verticales et nous nous sentons plus proches dans le fond de notre unité centrale à chacun que nous appelons alors notre âme. De sorte que pour finir, il faudrait la situation suivante, excusez-moi d'être extrêmement grossier, d'être très cru dans la présentation sur le formant, que j'ai tant à vous dire, il faut pour finir que l'autre ici arrive à faire ça, ça, et alors à ce moment-là, quand il n'y a plus d'espace du tout entre les parallèles, plus du sol, ici, lorsque ce disque, ce point est arrivé à être ceci et ça, et qu'il n'y a plus de séparation entre les points, il n'y a plus même une parallèle entre les points, les deux sont un. Et nous avons maintenant une voie du milieu, un milieu divin, qui est une unité entre les deux. Et cette même loi, ce même principe dans lequel toute la création marche, toute l'évolution marche, on la retrouve constamment, de grandeur en grandeur, dans toutes les réunions où les gens s'entendent, par exemple. La descente du Saint-Esprit qui vient lorsque on est tous dans la même pensée, dans le même cœur, tous les mouvements qui font que l'homme se donne à quelque chose de plus grand que lui, en commun, simultanément, et dans le même moment, et dans le même lieu, produit momentanément une situation semblable à celle-ci. On retrouverait tout le schéma de ça, en fait. Donc c'est tout l'effort de l'existence, c'est de passer d'une possibilité qui est là à une possibilité qui est là, pour que ceci se répète là, pour que ceci se répète là, pour que finir, il n'y ait plus d'horizontale, mais une seule verticale qui englobe tous les points, tous les degrés, en un seul degré, qui est l'unité totale. Mais le thème est organisé, la géométrie du thème, la loi du thème astrologique est organisée pour obtenir ce résultat-là, et c'est la seule chose qui constitue la charpente astrologique de la planète. Et or, ça, elle n'est pas infinie. Elle est constatable, elle est vérifiable. On peut en avoir, vous comprenez bien que j'ai fait de l'astrologie pendant quelques années avant de me rendre compte qu'il s'agissait de ça. On peut faire une astrologie de surface très vite. Oh, on peut être un gentil petit caractère qui fait très bien les choses, ça, Saturne veut dire ceci, on le colle là, ça veut dire ça. Et puis comme ça colle, on est tellement épaté, parce qu'on fait ça une résonance en vous, on dit mais non, on touche un monde nouveau, on est dans un état d'émerveillement, et comme on est très ignorant, on croit qu'on a tout compris. Et alors la vérité nous attend au contour, alors c'est un patatras formidable parce qu'on découvre que tout d'abord commencé, au fond on ne sait rien. Mais qu'on est devant quelque chose qui vaut la peine d'être étudié. Et je crois qu'il n'y a pas un astrologue au monde qui n'a pas commencé comme ça. J'entends un authentique, celui qui a vraiment la flamme, le génie, la chose. Je continue. Alors, ceci dit, je peux dépasser ce dessin. Et j'arrive maintenant à ce qui est. Maintenant, j'ai préparé le fondement de ce que j'appelle le signe du poisson, qui est le signe de la vie secrète du thème entier. Du thème entier. Car la vie secrète du thème entier, le thème de l'existence humaine, donc de l'incarnation, son secret se trouve dans la 12e maison. Et théoriquement, c'est dans le poisson. La 12e maison, est-ce qu'elle est? C'est parce qu'elle est fondamentalement poisson, et ce sont les valeurs du poisson qui sont constamment. De ces fleurs qui sont des degrés et qui deviennent des étoiles lorsqu'elles sont des fleuries complètement, lorsqu'elles deviennent des fruits. Cette poussée perpétuelle, se sert des parallèles qu'on maintenant on dira que l'intersticiel, l'intersidéral se fera des parallèles, et que l'étoile est le résultat d'une verticale qui s'est emparée des parallèles et qui leur a dit la lumière soit, et la lumière est descendue dans les parallèles, et la forme. Cette forme était devenue maintenant quelque chose d'une toute autre nature. Mais qui ne devenait qu'à la condition que la verticale lui tombe à deux. Ça, on pourrait faire une conférence formidable sur la genèse de l'art ésotériquement. Uniquement par un jeu de géométrie analogique à l'étude de notre propre psychologie humaine. Et ne pas s'égarer en le faisant non plus. Bien que comparaison ne soit pas raison, je sais qu'on ne s'égare pas. Je sens intuitivement, par moments, d'une façon foudroyante, comment vit l'étoile, par quelle est la loi, et je reconnais cette même loi en moi-même qu'en elle. On la reconnaît dans la Terre, pour commencer, puisque nous ne faisons pas d'autre chose que d'obéir à cette loi de la Terre, qui elle la vit, donc nous la vivons, et il y a la communion entre mon âme et l'âme de la Terre à cause de cette même loi, et à cause de cette même voie du milieu. Que la Terre connaît mieux que moi et qu'elle vit déjà mieux que moi, mais qu'elle est encore bien loin d'avoir vécu complètement, autrement, il y aurait quelque chose qui se passerait bien d'autre encore sur la Terre. Encore une chose, et ça, c'est en liaison avec ce que j'ai dit la semaine dernière sur le degré. Qu'est-ce que le degré de point, la croix, le cercle, le degré? Vous vous rendez compte que toute l'énergie sort, jaillit du centre de la croix. Qu'elle jaillit là. Que votre énergie essentielle, elle sort du centre de la croix, d'un fond mystérieux de derrière. Et que par le jeu, précisément, de la croix, cette énergie va maintenant se déployer dans le monde de la manifestation, qui sera aussi une représentation de son extension à cette énergie. Et donc, par conséquent, maintenant, nous avons le principe des 12 maisons astrologiques, les 12 bras de croix, les 12 maisons astrologiques. Or, qu'est-ce que c'est que la maison astrologique? Maintenant, en termes de ceci, la maison astrologique n'est pas autre chose. Comprenez-vous bien. Une énergie sort du foyer, du centre de la croix. Pourquoi sort-elle? D'ailleurs, elle sort en se déployant. Elle sort en se distribuant comme un arc-en-ciel distribue la lumière blanche dans un arc-en-ciel. Cette lumière blanche, qui est, disons ici, est l'énergétique fondamentale de ce que vous appelez votre âme, lorsqu'elle arrive au moment de la manifestation, se décompose tout de suite en couleurs d'arc-en-ciel. Et chaque couleur d'arc-en-ciel est là pour s'occuper est une fonction de l'être qui a pour but évidemment un objet. Et cet objet évidemment est extérieur à cet être. Alors pour atteindre cet objet, il faut un organe. C'est que par l'organe qu'on va l'atteindre. Alors la fonction crée l'organe. Et l'énergétique va maintenant créer l'organe, et l'organe sera la maison astrologique. Et la planète sera l'état actuel, votre capacité d'engendrer un organe par la qualité de la fonction de l'être qui est chargé d'atteindre son objet à travers lui. Ça, c'est une idée formidable, très simple, très clair, mais si on la comprend, alors à tout de suite. La fonction crée l'organe. S'il n'y avait pas la lumière, n'aurions pas les yeux. Il y a un appétit de lumière en nous, avec tout ce que ça comprend. C'est l'appétit de lumière en nous, nous cherche la lumière. Et dit la lumière est là, je la veux. Comment peut-il s'identifier ce désir et cet être en nous, cette fonction en nous, comment peut-elle s'identifier avec la lumière si elle ne crée pas l'organe qu'on appelle l'œil? Et ainsi de suite pour tout le corps. Les maisons astrologiques sont des organes qui ont été créés par l'appétit du point central d'aller chercher des objets qui étaient au-delà de son centre, qui étaient donc partis du centre d'autres êtres. Et c'est à force de combiner les organes par les fonctions qui deviennent de plus en plus puissantes et qui font disparaître graduellement tout ce qui sépare les organes les uns des autres, que les fonctions des uns et les fonctions des autres se joignant font le tableau que j'ai bien montré, où les degrés sont maintenant tous des verticales, et c'est la seule façon dont l'unité organique du monde, l'unité organique de la psyché collective de l'humain, pour ne pas parler d'autre chose, est en train graduellement dans l'évolution historique de sa fin. Est-ce que je me suis compris? Alors, ayant dit ça, je n'ai plus qu'à passer au poisson. Et vous voyez, le poisson, c'est un cercle, façon de parler, une pile. Et c'est aussi une autre spire, c'est aussi un autre cercle, tous ceux qui ont suivi les conférences de Lanceau, les conférences de Loge-Bas, savent à quoi je reviens. Et maintenant, vous allez voir ça en termes de l'horizontale et de la verticale. Alors ici, nous supposons que ici dessous, tout était horizontal, tout était horizontal, et que finalement cette verticale l'a attrapé là, l'a converti, et ça nous a donné ceci qui fait monter à ça pour arriver à ça. Maintenant, l'humanité, ou moi, ou vous, nous, ici présents, nous en sommes arrivés à ce point-là. Et nous en sommes donc maintenant arrivés là, et nous coupons toutes les parallèles, et nous devenons intelligents, nous sommes de l'intelligence de ce cercle-là. Et notre intégration, notre unité, la Vierge en nous, c'est ça. Notre puissance de mémoire, le jeu que nous avons avec notre mémoire, et non pas seulement la mémoire que nous avons en l'incarnation actuelle, mais celle du passé qui revient en nous, à notre disposition actuelle, tout ça devient ceci. à la mémoire de chacun. C'est une chance. Qu'est-ce que c'est que la mémoire si ce n'est pas la résistance? Qu'est-ce que c'est que la mémoire sans la résistance, si ce n'est pas la résistance? De quoi le temps est fait? Ne plus à répéter l'expérience. Mais ça, c'est encore une chapitre. Alors, on laisse. Alors maintenant, nous visons de ceci, nous allons là. Or, qui ne voit, s'il a compris ce que je viens de dire, qui ne voit que lorsque, du moment, ça c'est ce que j'appellerais le point alpha, le point de départ, ici le point oméga, le point d'arrivée. Or, qui ne voit que pour passer de ça à ça, ça signifie de développer le degré et par conséquent le point qui doit proportionnellement se charger d'un degré plus grand et l'élargir, et par conséquent être axialement plus fort et plus dense, toujours plus, pour finir, finir par arriver là, et alors, et voilà. C'est une loi de montée, c'est une loi d'évolution géométrique absolument certaine qui prend soin des 12 maisons astrologiques. Pourquoi prend soin de tout? Parce que cette question du degré va jouer maintenant dans tous les axes de la croix astrologique. Et qui ne voit que c'est la raison pourquoi le signe des poissons, c'est le signe fondamental, c'est le symbole et le signe fondamental de tous les autorismes astrologiques. C'est le signe fondamental de la que tous les autres signes ne sont que des divisions de ce signe-là. C'est lui le commencement et la fin du tout. Parce que c'est en lui qu'est mesuré l'étiage de montée. Où en êtes-vous? Un est là, l'autre est là, l'autre est là. Ce qui veut dire que celui-là a absorbé plus de parallèles horizontales que celui-là. Celui-là plus que celui-là, et ainsi de suite. Et l'autre lui barre moins que l'autre. Or, quand on cherche à connaître ce que c'est qu'une 12e maison astrologique, on est en train de chercher la somme des parallèles que cet individu a déjà absorbés. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on regarde une 12e maison astrologique qui représente prototypement le poisson, et en réalité l'est, et surtout quand on a un thème, ça l'est, mais nous devons prendre ce principe que c'est ça le poisson, et qu'il est là en sa 12e. Pourquoi est-ce que la maison secrète de chacun de nous, la 12? Avec toutes les colorations que donnons à les autres énergies qui se substituent au poisson pour le bon moment de l'incarnation et pour une vie. Et pourquoi est-ce que cette 12e maison est notre vie, qu'on appelle la vie de notre âme, notre vie secrète, celle que nous n'étalons pas, celle que nous ne pouvons pas étaler, qui va être, elle, le centre stratégique qui va disposer de la façon dont on va distribuer l'énergie dans les autres maisons et dans les autres signes, surtout dans les autres maisons que le champ extérieur. Jamais rien ne va se passer dans les maisons astrologiques qui serait contraire à la capacité et à la stratégie écrite dans l'âme de l'individu à sa 12e maison. Jamais. Cette 12e commande, la première, elle commande le bélier, elle commande le roi des arts. C'est la fin de quelque chose, cette 12e. Elle nous dit à la naissance, il est arrivé à faire cette conversion-là, cette somme de conversion parallèle. Il repart pour en faire d'autres, mais il a déjà acquis ça. C'est son acquis, cette 12e. D'où on l'appellera la maison de la médecine, d'où on l'appellera la maison des ennemis secrets, d'où on l'appellera la maison de l'âme, la maison de l'identification divine, tout ce qu'on voudra. On lui donnera les pires noms et les meilleurs. Et elle mérite les deux. Parce que suivant l'état de l'individu, il vit les deux. Il vit l'un ou il vit l'autre. Et alors, si vous comprenez que c'est ça le poisson, vous comprenez du même coup que ceci représente Neptune et ceci représente Pluton, mais de plus en plus. C'est le petit cercle, de plus en plus petit, c'est le plus petit, de plus en plus petit, mais alors il prend dans cette direction, et le ciel descend à l'enfer, et ceci représente, alors schématiquement maintenant, Et au plan humain, ils ne représentent pas que des parallèles ambulants. C'est déjà une prise de conscience énorme à Pluton chacun de nous. C'est déjà une évolution énorme chacun de nous, Pluton. Mais ça représente l'endroit où est le point de départ, la garde d'arrivée de départ du plus grand nombre de parallèles dont nous avons encore à négocier. On a dit autrefois, c'est clair, ça, n'est-ce pas? Depuis le temps que je sais que vous travaillez ça, je suis sûr que c'est clair. Et vous, M. Chocolat? Alors, vous comprendrez pourquoi j'insisterai toujours et que l'expérience le prouvera. Il n'y a pas à ergoter là-dessus, c'est expérimental. Le poisson, c'est Pluton et Neptune, tour à tour, qui en sont les maîtres, c'est final. Qui ne veut pas le voir a une raison ésotérique dans son thème qui l'en rend incapable. Jamais au grand jamais le scorpion, c'est une espèce de jonglerie de la mythologie qu'on a collé les choses sans aller y voir jusqu'au fond. Le Pluton, c'est le poisson, lorsque le poisson s'inverse et qu'il faut aller chercher en bas. Et le Neptune, c'est le poisson qui se redresse quand il faut le chercher en haut. Voilà la vérité. Et où que soit le signe du poisson dans le thème, vous avez ce jeu-là. Où que soit le signe du poisson dans votre thème, vous avez la réelle maison 12 du thème, de la loi. Et ça va jouer comme une maison 12 à sa façon. Et par conséquent, là, chaque fois que Pluton dans votre thème joue, il va démolir, il va faire dégringoler, il va vous faire rentrer dans les parallèles de votre poisson pour aller chercher des choses qui avaient été encore à conduire. Pluton dans votre thème vous rend l'immense service de vous montrer exactement où il y a encore des parallèles à transformer en vertical, où il y a encore du multiple à convertir à l'unité. C'est pas une chose. C'est pas une magie.
Alors, ayant dit ça, je suis maintenant enclin, je peux laisser tous les dessins et m'asseoir.
Et m'asseoir et maintenant parler de la deuxième vie. Et alors, appliquer ce principe.
Vous mettez là, j'ai une tendance à parler trop fort, alors après, je me réorienterai. Il faut aussi pas m'apprendre. Est-ce qu'il fait trop chaud? Voulez-vous qu'on ouvre un instant la fenêtre? Non, moi pas. Moi j'ai un peu chaud, mais ça va. C'est là. Je peux très bien respirer, mais les autres. Alors maintenant, entrons dans l'application concrète. Ah, vous allez voir, ça va être un enchantement. La maison astrologique est théoriquement une division de 30 degrés du cercle de 360. Partant du centre de la croix, qui est le sommet de l'aspect toujours, c'est lui seul qui détermine la réalité, l'existence d'un aspect quel qu'il soit. Il est toujours le sommet du triangle, et tous les aspects sont un triangle, quoi qu'il en soit, même à la conjonction. Les conjonctions par degrés zodiacaux, ça n'est qu'une apparence, encore. Le sacré dessin plat, géométrie plate, nous fiche dedans tout le temps. C'est inouï qu'on peut réussir à en tirer autant, rien que d'une espèce de petite platitude comme ça, à ce jeton avec des chiffres dessus, c'est quand même inouï qu'on en tire, mais alors qu'est-ce qui nous dit tout? Si l'on veut commencer à y voir profondément. Mais bon, on va aller faire à une sphère. Donc, alors, la maison astrologique, c'est une chose certaine, l'expérience nous le démontre, elle ne bave pas, c'est-à-dire ça ne déborde pas. La maîtrise appartient à une certaine fonction, c'est-à-dire à une certaine somme de fonctions, à un certain degré de la fonction de l'être qui s'appelle la planète. La planète sera le symbole, la représentation de cette fonction de l'être. Qui a pour mission de dégager encore davantage le potentiel énergétique du centre, de faire déborder l'eau qui est du puits central, de le faire monter en surface et déborder dans cette maison, et pas ailleurs.
Car la palette elle-même ne donnera rien. Elle marquera simplement comme une manivelle d'une certaine couleur que l'heure est venue de faire monter l'eau du puits du centre de la croix et de l'amener à déborder. Et qu'on veut maintenant une eau de couleur bleue, qu'on veut une autre eau plus tard de couleur rouge, qu'on veut la combinaison des deux. La planète est une infirmière qui cycliquement vient enlever quelques tours de bandage à un malade, à un paralysé. Elle le déparalyse, elle déclenche le feu. Si l'être n'était pas lui-même libre dans ses profondeurs, vous pourriez marcher toutes les planètes, mais rien ne marcherait. Mais dès que l'infirmière est venue et qu'elle a fait ce tour, voilà que d'un coup commence à étendre le bras. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est synchronisé entre l'horaire de cette âme qui dira telle année, tel moment, ce bras sera dégagé, et comme c'est organisé avec d'autres êtres qui ont fait la même histoire dans leur propre âme, la planète est là pour faire l'exercice de la chose, et pour vous, et pour l'autre, et pour l'autre. Et c'est ainsi que tout le système de la coaction, de la correspondance, de la synchronicité est possible. Et c'est ça l'astrologie. Alors, vous voyez maintenant c'est fini de parler de la théorie. Allons dans la pratique. Quand vous comprenez bien que la 12e maison de votre thème, alors maintenant que chacun qui a son thème y pense, que chacun le revoit dans son esprit, parce qu'on va prendre des exemples directement, moi je vais en prendre dans mon propre thème. Vous pouvez suivre ça sur le vôtre. Je ne vais pas faire le tour, ce n'est pas la peine. Je vais prendre 6 maisons de mon thème, 6-7 maisons de mon thème, ça suffira bien. C'est assez éloquent. Prenez l'idée, voyez l'expérience. 12e maison de votre thème, poisson. Ça, c'est une maison qui représente exactement le palier à laquelle, dans l'escalier, le spirale que vous êtes monté, vous avez le droit de vous arrêter. Et sur ce palier, tout d'un coup, débouche de nouveau un nouveau tour de palier pour aller à un étage supérieur, ce qui veut dire pour consommer davantage de parallèles horizontaux. Ce n'est pas autre chose que ça. Car la maison astrologique elle-même, elle n'est faite que de parallèles horizontaux que la croix, qui est la pointe de la maison, est en train d'enfourcher l'une après l'autre et à convertir cette parallèle en une verticale qui va se rallier maintenant au centre de la croix et nourrir ce centre de la croix. Le centre de la croix dans le thème représente le Dieu du thème et représente exactement sur le plan humain ce que le Dieu du monde et le Dieu de tous les mondes fait à son tour. C'est que le 1, 1 de 1 de 1 de 1, c'est à son tour. Chacun dans son département et dans son niveau. Et c'est dans ce sens-là qu'on dira l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors, cette 12e maison n'est pas au-dessus, mais au-dessous de la première. Car l'incarnation, c'est le bélier. Vous acceptez de nouveau de commencer à créer un nouveau degré, d'engendrer un nouveau degré. Vous partez de votre centre et vous dites en avant la musique, je fais de nouveau un tout. Et de maison en maison, vous allez convertir de nouveau des quantités de parallèles en verticales. Voilà. Tout ce que vous appelez votre vie, vous dites je m'étire, je me tends, je fais ceci, je fais ça, je monte, je descends. Pour l'organisation de votre corps, c'est ça. Toute l'organisation de l'énergétique consciente chez vous, ce n'est que ça. Tout même le langage n'est que ça. La pensée, son train conscient n'est que ça. Vous avez une loi sidérale pour le cheminement de la pensée, c'est très simple. On la retrouve là tout de suite. Bon. Alors, remarquez ceci. L'expérience nous prouve que quand une personne a une très mauvaise 12e maison, disons qu'elle a pris ton là, si qu'il est encore affligé, qu'il amène à lui quelque chose de la 10 ou de la 9, enfin il est là. Eh bien, vous voyez que le départ, le démarrage dans l'existence de la première maison, est fameusement hypothéqué. La première maison peut être épatante, mais c'est bien, c'est ça le contrat. Elle peut être chargée magnifiquement, dynamique, elle est prête à partir. Mais elle sent tout le temps que derrière elle, il y a un boulet, il y a quelque chose qui cloche. Donc la deuxième maison a une puissance, même que elle ne déborde pas dans la première, même que les maisons sont distinctes les unes des autres, que leurs maîtrises sont différentes, il va de soi qu'au centre de la croix, l'être est conscient de ses 12 maisons. On peut dire dans un sens qu'il est conscient d'elles simultanément. Il est conscient de l'épreuve simultanément qu'il doit faire, qu'il doit subir, le test qu'il doit faire, la chasse qu'il doit faire au parallèle dans toutes les maisons. Il en est parfaitement conscient. Et il pense à l'une lorsqu'il est en train de travailler avec l'autre. Il ne peut jamais les oublier. S'il est bien équilibré, il le fera. Et nous avons le rapport des maisons, de la distribution des énergies de la conscience et donc de l'optique de l'être et de la bataille de l'être. Nous l'avons par les carrés, nous l'avons par les trigones, nous l'avons par les sextiles, nous l'avons par les conjonctions. Et par conséquent, nous avons les rapports, par exemple, des signes de terre entre eux, les signes d'eau entre eux, qui sont les grands triangles. Oui, mais il y a le rapport aussi de 60 degrés, de maison à maison, juxtaposé. Parce que, justement, deux maisons, 12 et 1, ça représente 60 degrés, c'est poisson bélier. Ça représente le signe féminin poisson, le signe masculin bélier. Ça représente le sextile parfait, et c'est toute l'idée du sextile qui est là, qui est toujours représenté par 30 degrés féminin, 30 degrés masculin. Soit que le féminin inspire le masculin, qu'il représente donc la voilure dans un navire, dans un voilier, et que le masculin représente la quille, la forme, soit qu'au contraire, celui qui est derrière représente le masculin, et celui qui est devant représente le féminin, c'est-à-dire le signe féminin. Mais c'est toujours comme ça le sextile. Eh bien, c'est comme ça ici également. Et cet ordre de féminin-masculin tel qu'il est bien là, c'est encore une histoire géniale. Donc si ça c'est vrai du début, vous partez dans la vie, mais votre âme est sûre. Il y a des moments où fatalement vous avez voulu rentrer dans votre âme. Ah mon Dieu, qui ne doit pas quelquefois rentrer dans son âme? Eh bien, je vous assure que quand je vois une douzième maison absolument délabrée, dans une église trouée de la toiture et une désolation, n'est-ce pas? Il n'y a même pas un hôtel possible, il n'y a que des souvenirs d'hôtels, d'anciens hôtels. Je me dis, le pauvre gars, il peut s'amuser dans sa 5 quand il voudra. Il peut encore aller s'amuser dans sa 11, mais se faire casser les pieds quelque part. Et quand il voudra se faire casser, quand il sera cassé les pieds, à force de vouloir prendre des parallèles et les convertir, il n'y pas réussi, n'est-ce pas? Il ira courir dans sa 12 et qu'est-ce qu'il trouve? Rien. Moins que rien. Alors il se dépêche d'en ressortir. Et le pauvre malheureux qui doit en ressortir, il est vraiment un pauvre bout. Il est un pauvre bout. Donc le bonhomme peut partir avec sa première maison et se dire, mon Dieu, il faut que je reste toujours dehors, que je sois un extroverti, parce que l'introversion, c'est ma perte. Je déraille complètement. Vous voyez? Alors si ça c'est vrai, dans le rapport, et c'est vrai au maximum, dans le rapport bélier poisson, première à 12, c'est vrai tout le tour du thème de deux maisons en deux maisons. De deux maisons en deux maisons. Regardez. Votre deuxième maison représenteront tout simplement maintenant ici votre fortune, votre avoir mobilier. Fini. Vous en faites ce que vous voulez. Vous dites, non, je suis un millionnaire. Ah, je le suis, il n'y a aucune espèce de doute. Oui, mais si votre ego est crevé, si votre première maison a un Pluton, elle vous dit, c'est donc simplement que vous en aurez un horrible complexe d'infériorité. À quoi vous sert cette deuxième maison? Il a peut-être, cette deuxième maison va être superbe, non pas seulement à cause du planète, la planète qui en met, qui en émet, pour les aspects qu'elle reçoit, mais aussi pour les planètes qui s'y trouvent, et qui vont aussi donner des très bons aspects. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'argent, c'est pas possible. Vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche et un lac liquide d'or. Bon, mais si vous êtes si vous ne pouvez pas vous baigner, si vous avez peur de l'eau, si vous avez peur de tout dans l'ego, La douzième de la deux. La douzième de la deux. Donc, la maison qui précède une maison est toujours la douzième de celle-là. Car chaque maison est un ascendant et chaque maison est un organe en soi avec son cycle de douze. Car chaque maison, car chaque fonction qui a son organe est bien obligé de faire le tour de tout. Pour servir le tout dans un mouvement d'intégration de plus en plus complexe, de plus certaine. Donc vous voyez que la première maison peut être une terrible douzième pour une magnifique deux. Et regardez maintenant la trois. La troisième maison, la troisième maison, c'est les Gémeaux. Ah, nous en sommes très heureux. Ah, ce que nous aimons, ce que nous aimons avoir de la conversation les uns avec les autres. Ah, ce que nous aimons jouer avec des idées. Ah, ce que nous aimons, et comme nous cherchons à apprendre tout, à regarder partout, à s'amuser avec tout. Une maison d'amusement formidable, mentale, les Gémeaux. Oui. Et vous avez une magnifique maison Gémeaux. Oui. Vous êtes un journaliste incomparable. C'est une maison de Gémeaux, par exemple. Le fait divers, vous l'attrapez comme ça et vous l'attrapez vite et vous le donnez brillamment. Troisième maison. Le fait divers, c'est ça. Oui. Comment, si vous sentez qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer votre loyer, si votre deuxième maison est trois quarts foutue, vous avez ce froid sur vous tout le temps, ce froid. Et vous dites, oh, c'est bien, c'était pas tant, moi j'ai une belle tête et j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à faire de l'argent avec tout ça. Et puis de toute façon, je ne suis pas né fortuné du tout. Alors le froid de ne rien avoir chez soi retient cette troisième maison. Donc vous voyez, la douze de la trois est une némésis pour cette troisième, comme le poisson est une némésis pour le milieu. Il peut l'être. Et alors maintenant, on en est dans la 4. Alors la 4, c'est la famille. C'est le foyer. C'est la famille. Oui. Comment vous comprenez? Si vous êtes un demi-crétin, avec votre troisième maison qui est la 12 ou la 3, c'est la 4. Si vous ratez toujours vos examens à l'école, si vous êtes toujours le dernier de votre classe, quelle que soit la volonté de ne pas l'être, si vous n'arrivez jamais à écrire, à faire de l'orthographe normale, à écrire une lettre décente, c'est quand même quelque chose. Cette deuxième de votre quatre, quand même, c'est toujours pour la quatrième. Vous pouvez avoir la plus gentille maman, mais toujours le bel intérieur. Vous êtes quand même une espèce de raté dans l'histoire. C'est ça? Et nous en sommes là. Alors vous voyez la suite de cette affaire-là. Regardez la sixième. La sixième maison sera la douzième de la sept. Comme ça éclate encore une. La sept, c'est le droit, le pouvoir d'exercer les contrats, les opérations contractuelles de valeurs égales avec l'autre. Donc, l'une des valeurs contractuelles essentielles, la plus courante dans nos pays, c'est ce qu'on appelle le mariage. Par conséquent, ici, c'est la contractualité du couple. Contractualité spécifique, et fondamentalement, c'est celle-là qui est à l'origine même de la septième maison et de la balance. Bon, mais si la sixième maison, sa douze, est très mauvaise, qu'est-ce que vous apportez au contrat? Oh, vous apportez de l'argent de Dieu. Oh oui, d'accord. Vous apportez peut-être des honneurs en 10 parce que vous avez un oncle qui est président de la République. L'équivalent, président des corporations. Mais on vous prend dans la compagnie et comme associé à droits égaux parce que vous avez autour de vous des amis très influents. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes? Si votre sixième maison est très mauvaise, très malade,